14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Sabine disparue hier soir alors qu'elle allait acheter un tube de peinture et que l'on a retrouvé cet après-midi à 3 km de son domicile. L'enquête conclut qu'elle a été assassinée après avoir été violentée. Son bourreau aurait même tenté, heureusement sans succès, de lui brûler le corps.
Bonjour, Sabine Dumont avait 9 ans quand elle a été enlevée, violée et tuée au printemps 1987 dans l'Essonne. Son meurtrier n'a jamais été retrouvé malgré quelques indices qu'il avait semés derrière lui. Presque 35 ans après, la famille de la petite fille blonde se bat toujours pour connaître la vérité. Les Dumont n'ont jamais baissé les bras sans leur acharnement. Le dossier Sabine Dumont, se heurtant à l'absence de témoignages et de preuves, aurait depuis longtemps fini aux oubliettes de l'histoire criminelle. Troublant et cruel hasard, trois autres petites filles, Virginie, Emma et Perrine, vont disparaître à la même époque en région parisienne et connaître le même sort que Sabine. Autant de dossiers qui restent à ce jour des crimes en série non élucidés. La France compte à ce jour pas moins de 240 dossiers de ce type. Nous avons choisi de raconter l'histoire de Sabine Dumont au moment où le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, annonce le lancement d'un pôle judiciaire dédié aux cold cases, aux affaires non résolues. C'était le souhait de nombreuses familles de victimes et d'avocats. Nous en parlerons bien sûr avec nos invités.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Heure du crime consacrée aujourd'hui à la disparition et au meurtre de la petite Sabine Dumont, 9 ans. Une fille souriante, sage et bonne élève dont la silhouette va s'effacer du paysage une après-midi du printemps 1987 dans une commune paisible de l'Essonne. Ce samedi 27 juin 1987, aux alentours de 16h30, Sabine Dumont est chez elle avec sa mère au numéro 22 de l'avenue de la Gare à Bièvre. Les Dumont, un père responsable de la sécurité chez Matra, une mère assistante maternelle, habite la résidence du Renouveau, un bâtiment tranquille et familial. Sabine est la petite dernière d'une famille nombreuse, 6 enfants. Ce samedi de printemps a bien commencé. Après l'école, elle a filé à la clinique avec sa mère pour rendre visite à l'une de ses grandes sœurs, Christine. Celle-ci a accouché d'une petite Sarah que Sabine, sa désormais toute jeune tante, a pu prendre dans ses bras. De retour à la maison, Sabine, qui se passionne pour la peinture et réellement douée, décide d'offrir un dessin à sa petite nièce. Mais elle n'a plus de gouache blanche. Elle demande à aller à la papeterie, 20 minutes à pied, uniquement des rues très passantes. Elle n'a jamais été autorisée à sortir seule, mais après tout, elle va avoir 10 ans dans une semaine et elle ne risque rien. Qui plus est, elle sait qu'il ne faut jamais monter dans la voiture d'un inconnu ou même d'une personne qu'elle connaît. Sabine peut donc aller acheter seule son tube de gouache. Elle doit se dépêcher car le ciel est noir, un orage menace. À 17h10, elle est à la papeterie. La pluie s'abat sur Bièvre. Madame Branger, une voisine qui la connaît, lui a proposé de monter en voiture. Mais elle a refusé, respectant à la lettre les consignes de sa mère. À 17h30, sous une pluie battante, devant l'auberge du Val de Bièvre, à 100 mètres de chez elle, la silhouette de Sabine Dumont s'efface du paysage. Geneviève Dumont, la maman, est rapidement inquiète en ne voyant pas sa fille rentrer. Elle songe aussitôt à un accident. Avec des proches, elle fait et refait 20 fois le trajet, visite les commerces, interpelle les passants, alerte des connaissances. Peu après 19h, le père, Christian Dumont, prévient la police, le commissariat de Palaiseau et la gendarmerie. Les autorités songent brièvement à une fugue, puis se ravisent, d'autant plus que trois petites filles viennent d'être enlevées en région parisienne. Deux ont été retrouvées mortes. Impossible de ne pas faire le lien. Les gendarmes et des équipes de brigade anti-criminalité lancent les recherches. Un chien pisteur s'arrête devant le 18 avenue de la Gare, face au restaurant. De toute évidence, Sabine est montée dans une voiture où il y a été contrainte. Personne n'a rien vu. Sous l'orage, il n'y avait pas âme qui vive dans cette rue de Bièvre. Sabine reste introuvable. Dimanche 28 juin, une équipe de plongeurs sonde la Bièvre. La rivière passe tout près de la résidence du Renouveau. Un hélicoptère survole les bois. La famille et des volontaires ont passé la nuit à quadriller le secteur. À 13h, deux motards de la CRS 8 aperçoivent un paquet de vêtements roulés en boule dans un talus près de la Nationale 118 direction Paris. à 3 km de Bièvre. Un blouson bleu ciel, des jeans, des baskets blanches, la tenue que portait Sabine quand elle a disparu. À 15h45, l'hélicoptère des gendarmes signale une forme claire dans un fossé près de la route de Favreuse, à 800 mètres du tas d'habits. À 16h, le corps entièrement dénudé de Sabine est découvert. Elle gît sur le dos, entièrement nue. Le visage et le corps en partie brûlés avec du white spirit. La bouteille vide est là. Tout comme des mégots, elle a été violée, puis étranglée avec une cordelette. Un violeur et meurtrier qui n'a pas hésité à prendre tous les risques pour enlever Sabine. Le fait est qu'à Bièvre, aucun témoignage ne permet d'aiguiller les enquêteurs sur une piste, tout au moins pour le moment. Le SRPJ de Versailles n'exclut pas que le violeur et meurtrier de la petite Sabine soit un habitué de ce coin de l'Essonne, tout au moins quelqu'un qui connaissait assez bien le secteur Bièvre-Favreuse pour emprunter cette route discrète qui se termine par un cul-de-sac traversé par une piste cyclable pour se débarrasser ici du corps. Les enquêteurs ont établi que les habits de la victime étaient secs quand ils ont été découverts alors qu'il avait plu une bonne partie de la nuit. La dépouille n'a elle pas non plus séjourné longtemps à l'extérieur. Les légistes affirme que Sabine a été tuée peu de temps après l'enlèvement. Son bourreau l'a donc gardée avec lui pour s'en débarrasser le dimanche matin. Il a peut-être conservé avec lui la petite culotte de la fillette, sous-vêtement qui n'a jamais été retrouvé. Si aucun témoin n'a vu monter Sabine Dumont dans une voiture, le signalement d'un véhicule de couleur blanche revient en boucle. Plus précisément, une BMW série 3, 4 portes, conduite par un homme entre 25 et 35 ans, cheveux clairs ou blonds, visage émacié, portant peut-être des lunettes. Un individu qui était venu aux nouvelles en voyant le dispositif de recherche, la police établit un portrait robot, mais celui-ci ne déclenche aucun témoignage capital. Un autre fait troublant émaille les investigations. Le week-end du crime, l'école primaire que fréquentait Sabine à Bièvre, l'école des Castors, a été visitée dans un but bien précis. Toutes les photos d'une épreuve de crosse scolaire affichée sur un panneau de l'établissement ont été subtilisées. Sabine Dumont y figurait en bonne place, photographiée notamment par les parents d'élèves lors du départ et de l'arrivée de l'épreuve. Ces clichés n'ont jamais été retrouvés. Les enquêteurs demeurent troublés par cet événement. Il n'est pas exclu que le ravisseur de la petite fille figurait sur ces images. Il aurait craint d'être reconnu d'une façon ou d'une autre, peut-être, mais cette piste ne va pas prospérer. En ce même printemps 87, avant le crime de Bièvre, trois autres petites filles ont disparu en région parisienne. Toutes ont été violées et tuées. Le 9 mai, la série tragique débute avec la disparition de Virginie Delmas, 10 ans, habitant une cité HLM de Neuilly-sur-Marne. Elle était brièvement sortie pour jouer au bas de l'immeuble. Elle ne réapparaît pas. Elle aurait disparu à bord d'une voiture claire. Elle ne sera retrouvée qu'au mois d'octobre, étranglée et violée dans un verger de Marulles-les-Maux. 30 mai, Ena Gredari, 11 ans, quitte l'appartement familial de Malakoff pour aller racheter une équerre à la papeterie du coin. Elle ne rentrera pas. Son corps est découvert une heure plus tard sur le parking d'une cité de Châtillon-sous-Bagneux, en partie carbonisée. Ena a été violée et étranglée. 3 juin, Perrine Vigneron, 7 ans, insiste, malgré la pluie, pour se rendre à son cours de poterie, tout à côté de son domicile de Bouleur, en Seine-et-Marne. On la retrouvera morte le 27 juin, ses habits soigneusement pliés. Le même jour où Sabine Dumont disparaît à Bièvre, un meurtrier et violeur en série est-il à l'origine de ces crimes ? Malgré le manque d'indices et de témoignages, des profils intéressants vont surgir dans le paysage de l'enquête, des hommes qui pourraient avoir agressé Sabine, mais aussi Virginia, Ena et Perrine. Le 29 juin 1987, soit au lendemain de la découverte du corps de Sabine, les enquêteurs ont bien cru qu'il pouvait tenir le violeur et meurtrier de la petite fille. Ce jour-là, un homme est arrêté à l'entrée d'un bois près de Vic, dans les Yvelines, à une trentaine de kilomètres de Bièvre. Il est en compagnie d'une enfant de 9 ans. Son attitude a intrigué un riverain qui s'est approché de la voiture, a vu à l'intérieur des coupures de presse sur l'affaire Sabine Dumont. Il a aussitôt téléphoné à la gendarmerie. L'homme, entrepreneur de 54 ans, père de famille, est interpellé. Il reconnaît avoir enlevé à trappe la fillette avec qui il est. Elle est prénommée Tania. Il voulait la violer. L'individu sera poursuivi pour cette affaire, mais impossible de le relier à la mort de Sabine ou à celle de Virginie, Ena ou Perrine. Il dispose pour tous ces cas de solides alibis et de témoins assurant qu'il était ce jour-là à son travail. 1990, trois ans après le crime de Bièvre, un cuisinier normand de 29 ans, Gérard Lebourg, est arrêté pour le meurtre de la petite Delphine Boulet, 10 ans, qui participait à un camp scout à Villerville. L'enquête montre rapidement les penchants clairement pédophiles de l'intéressé, un homme qui confie d'ailleurs dans ses lettres qu'il conserve sa névrose totalement obsessionnelle. Son emploi du temps ne cadre pas avec les crimes de la région parisienne. D'autres pédophiles et hommes connus pour des violences vont intéresser au fil des années les enquêteurs sans toutefois apporter de lumière à l'affaire Dumont. Les enquêteurs qui vont s'intéresser au cas du Britannique Robert Black, camionneur pédophile qui sillonnait l'Europe et la France, à l'imprimeur Raymond Guardot, mort en 99, qui séquestrait et violait ses enfants. Il aurait pu disposer de produits inflammables spécifiques utilisés notamment pour brûler le corps de la petite Emma. Le corps de Guardot sera exhumé pour prélever son ADN. En vain, le cas du grêlé François Vérove, violeur en série qui s'est suicidé avant d'être arrêté en septembre 2021, est également à l'étude. Par chance, et surtout grâce à l'obstination sans faille des parents de la petite victime, le dossier Sabine Dumont n'a jamais été refermé, contrairement à celle très ressemblante de Héna Gridary, close et dans laquelle les scellés ont été détruits. L'affaire Dumont est demeurée intacte. Les vêtements de la fillette ont été conservés, ainsi que les résultats des prélèvements effectués à l'époque. Les enquêteurs avaient ainsi détecté du sang de groupe A positif, celui de l'agresseur, sous les ongles de la victime qui se serait défendue. Une trace suspecte sur le t-shirt de Sabine avait longtemps été inexploitable jusqu'au développement des techniques ADN. Cette trace, un ADN masculin considéré comme celui du meurtrier, a été analysée en 99. Elle a été versée depuis au fichier des empreintes génétiques, le FNAEG. Dans l'attente d'un témoignage capital, toujours susceptible de survenir, même des années après, les enquêteurs s'accrochent donc à l'ADN. En 2015, le juge d'instruction a demandé une recherche en parentèle concernant le cas Sabine Dumont. Cette technique permet de plus larges rapprochements, déterminer si un proche du meurtrier, dans le cas présent un père, un frère ou un fils, figure dans les fichiers de la police. Une méthode qui a fait ses preuves et permettrait d'approcher du coupable. Plusieurs personnes présentant des profils dits intéressants seraient apparues lors de cette recherche très longue et souvent très fastidieuse. Notre combat, c'est celui de Sabine. On espère toujours que la personne responsable de cet acte réponde devant la justice, indiquer alors les parents de Sabine. L'affaire Sabine Dumont va sans doute rester ouverte tant que la vérité ne sera pas découverte. Elle fait partie des cas qui pourraient échoir au nouveau pôle judiciaire consacré au dossier non élucidé. Le 1er mars 2022, un pôle judiciaire spécialement dédié aux crimes en série non élucidés ouvrira ses portes au sein du tribunal de Nanterre. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a ainsi répondu favorablement à une demande récurrente de parents de victimes, d'associations et d'avocats. Trois juges d'instruction vont ainsi se pencher sur 240 dossiers dont les enquêtes sont restées vaines. Selon le ministre, le but est de permettre à ces dossiers de rester vivants judiciairement et d'offrir une réponse aux victimes. Un pôle judiciaire également destiné à empêcher le roulement trop fréquent des juges d'instruction dès lors qu'un dossier s'éternise. Le temps qui passe est le plus mauvais ennemi de l'élucidation d'une affaire parce que la mémoire s'estompe, indiquait récemment Éric Dupond-Moretti au journal 20 minutes. Le cas Sabine Dumont, l'un des 240 cold cases recensés en France, ne devrait donc plus être menacé d'être prématurément refermé. De quoi rassurer la famille et la conforter dans sa quête de vérité.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.